Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour votre émission humanitaire Faboudirène. Bienvenue sur le plateau d'entre-aide à travers des bonnes informations. Place au titre.
Depuis le début du mois d'août, plusieurs localités du pays ont été inondées suite à des fortes pluies. Des inondations qui ont causé des dégâts énormes et des pertes en vies humaines.
Et dans cette émission, nous faisons le point de cette situation humanitaire à travers le pays. Avec les autorités locales, nous parlerons des réponses apportées, mais aussi dans ce numéro de Faboudirène, nous ferons un zoom sur l'explication scientifique de ces cas d'inondation avec des experts.
Notre rubrique proverbe de la semaine sera consacrée à un adage bambara qui dit « Qu'il pleuve ou pas, la pomme cannelle, sunsu en bambara, donne ses fruits ».
Tous ces riches programmes vous seront développés par Draman Meiga et Aissata Diarra.
La technique est assurée par Ibrahim Sanogo.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aïcha.
Bonsoir Draman, comment tu vas?
Je vais bien et toi?
Je vais bien également.
La semaine s'annonce, j'espère que tu es prête pour attaquer la nouvelle semaine à partir de demain.
Nous rendons grâce à tout à fait.
Alors, comme annoncé tout de suite au sommaire, nous parlerons aujourd'hui des inondations. Et la situation inquiète les Maliens un peu partout dans le pays.
Oui, Draman, les fortes pluies ont causé des dégâts matériels conséquents, des maisons effondrées et des milliers de sinistrés. À ceci s'ajoutent des champs inondés et des pertes en vie humaine.
Paix à leur âme. S'agissant de ces champs inondés, à ce jour, ce sont des milliers d'hectares engloutis par les eaux selon des autorités locales à travers le pays. La Direction générale de la protection civile dénombre, tenez-vous bien, 29 644 cas d'effondrement.
Une situation qui a touché près de 180 000 personnes Draman, faisant 118 blessés et 62 pertes en vie humaine à la date du 9 septembre, rapporte toujours la même direction.
Comment les sinistrés vivent-ils cette situation? Qu'est-ce qu'il en est sur les sites des personnes déplacées à Bamako et à l'intérieur du pays? Élément des réponses dans cette réalisation de Fatoumata Kodjo.
Des maisons effondrées, des champs ravagés, des greniers emportés par les eaux de pluie, ce sont quelques images après le passage des eaux de pluie dans le cercle de Bankas, région de Bajangara. Plus de la moitié des communes de la localité sont victimes d'inondations. La situation dans le village de Dogolé est préoccupante, car tout a été détruit, nous signale Soumaïla Guindo, maire de Kani Bonzon.
En 30 mm, c'est abattu dans la commune. Cette fois-ci, inondé une grande partie du village et aussi ensemble les 4 quartiers, 4 cinq qui constituent le village de Dogolé, détruisant tous les villages. Et nous avons administré 70 ménages détruits, 72 greniers détruits à les églises, les marchés, les troupes sont emportées. C'est-à-dire le village a été détruit de son bien.
Les pluies diluviennes du 16 août dernier ont causé d'énormes dégâts et des pertes en vie humaine à Gao, au nord du Mali. Les sinistrés ont été recasés dans les écoles publiques ou dans des espaces aménagés dans la localité. Aujourd'hui, ces derniers demandent une assistance d'urgence.
Ma maison s'est effondrée ainsi que ma clôture, mais aussi les toilettes. Nous espérons trouver une aide pour la réhabilitation de nos maisons.
On a vécu des moments vraiment terribles qu'on ne s'entendait pas. C'est pas facile hein, parce qu'on s'est retrouvés chacun avec sa famille et puis mais on attend mieux plus que ça. De trouver un dortoir, on ne peut pas rester à l'école jusqu'à la fin.
Ici, dans la cour de l'IFM, l'eau est rentrée et que bon, tout est effondré. Vraiment, les conditions sont mauvaises. On n'a rien ici.
Djeneba Dolo et Safiatou Dambélé ont trouvé refuge à l'école Tchekoro Koulibaly Amdalaï A de Ségou. Les fortes pluies ont eu raison à leur concession. Au quartier Amdalaï dans la cité de Balanzan, Moumine Dao, quant à lui, se trouve actuellement dans la cour d'une médersa au quartier Bougouni, dans la même ville. Ils ont perdu beaucoup de matériel. Leur inquiétude, c'est de trouver un abri avant la rentrée des classes.
Dieu merci, j'ai eu la chance. Mes enfants venaient tout juste de sortir quand ma maison s'est effondrée. Mon mari est décédé. C'est difficile de vivre avec mes enfants dans cette école. On a entendu parler de l'aide, mais on n'a rien vu pour le moment.
J'ai perdu ma maison, mes stocks de céréales, mais j'ai pu récupérer mes ustensiles. La rentrée approche. On doit quitter les salles de classe. Mais je n'ai pas encore trouvé une maison. J'ai fait la lessive pour subvenir à mes besoins.
Notre préoccupation première est d'avoir une habitation en plus des enfants en charge.
Les sites des personnes déplacées ne sont point épargnés par ces inondations. Dans les sites situés à Faladje, les personnes déplacées sont dans les eaux stagnantes. Sur place, elles affirment avoir reçu des appuis pour se mettre à l'abri. Cependant, elles espèrent un soutien plus adapté. C'est du moins ce qu'a affirmé Amadou Diallo, l'un des responsables des personnes déplacées à Faladje.
On a reçu plus de 400 bâches et des moustiquaires. Sans ces bâches, on utilise des pailles et des bois pour faire des tentes. On veut des tôles et des ciments car après cette saison pluvieuse, nous avons aussi peur des risques d'incendie. Cela nous fera plaisir avant notre retour dans nos villages respectifs.
Plusieurs ONG soutiennent les personnes vulnérables en cas de catastrophe naturelle. C'est le cas de la Croix-Rouge malienne à Tomia. Elle assiste les victimes d'inondations. L'accès aux sinistrés et le manque d'informations sont des difficultés qui compliquent le secours, affirme Garba Sogoba, président du comité local de la Croix-Rouge malienne à Tomia.
Tout de suite sur le champ, nous nous intervenons physiquement. Nous approchons les gens qui sont dans le cas. Nous les aidons à évacuer le matériel qui puisse être négativement atteint. Et les personnes handicapées, nous intervenons au niveau du comité de gestion, soit en acte, soit en moustiquaire. Quand nous n'avons pas l'information, on ne peut pas intervenir. C'est le premier handicap. L'accès sur les lieux, pendant que c'est la saison hivernale, souvent on a des problèmes d'atteindre les inondés.
L'Agence nationale de la météorologie Mali Météo, de son côté, continue d'alerter sur les risques d'inondations sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, elle invite la population à éviter les zones à risque.
Aïssata, les inondations continuent de faire des dégâts.
Les témoignages que nous venons d'écouter en disent long sur cette situation de crise et catastrophe naturelle que vit le pays.
Les dernières pluies ont fortement impacté les régions du nord et du centre. Dans le seul cercle de Bankas, plus de 2000 hectares de champs ont été envahis par les eaux de pluie, à en croire le directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Bandiagara.
Justement, nous sommes avec le maire de la commune urbaine de Bandiagara, Abdoulaye Tessougué. Au micro de notre correspondant sur place, il nous brosse la situation dans sa région et les mesures à prendre pour minimiser les risques au cours des prochaines semaines.
Cette année est devenue une année exceptionnelle de pluviométrie. Et le contexte dont nous nous trouvons aujourd'hui, qui a risque d'inondation. Nous sommes en train de mettre l'action sur la sensibilisation, de faire comprendre aux uns et aux autres, et à tous les niveaux, les acteurs impliqués doivent se donner la main pour donner la bonne information à la communauté, pour respecter les textes en vigueur. Les uns et les autres, non seulement il y a la méconnaissance, et pour certaines personnes, c'est l'incivisme. Là où la population doit s'interpeller, c'est de dire vraiment de respecter les textes et de changer de comportement. Le changement de comportement est très, très, très capital. Et non seulement nous sommes en train d'entreprendre des journées de sensibilisation, de communication pour faire face à beaucoup de cas qui peuvent survenir indépendamment de la volonté des autorités. Donc il est demandé à tout un chacun de vraiment changer carrément de comportement pour éviter des cas d'inondation. Parce qu'on a constaté que beaucoup d'inondations, nous sommes les premiers facteurs par rapport à la façon même de nous comporter et aux obstructions, au déversement anarchique des ordures, au non-respect des passages de l'eau, etc., etc. Effectivement, il y a des champs touchés et nous ne pouvons que donner approximativement la surface par hectare qui est un peu touchée par l'eau. Donc aujourd'hui, nous sommes à plus de 25 hectares de champs inondés. Ça, c'est pour la commune urbaine de Bandiagara. C'est supérieur ou égal à ça. Ça, c'est ce que nous-mêmes, on a pu constater et les informations qu'on a à travers les services techniques concernés. Et chaque jour faisant, comme la pluie continue et les champs La surface d'inondation aussi est en train de s'augmenter progressivement. La plupart des champs ne sont pas cultivables à cause de l'insécurité. Le peu d'espace qui restait pour que les gens puissent s'approprier et diversifier leurs cultures, une partie aussi est inondée. Donc automatiquement, la crise alimentaire se lie dans la façon même de l'évolution de l'insécurité et de la grande pluie. Par rapport à nos administrés, nous lançons un appel solennel à tout un chacun de demander conseil auprès des services techniques concernés et que ces services techniques, à leur tour, mettent dans l'application des textes plus de rigueur. Parce qu'il y a de ces inondations, ça ne peut pas s'éviter sans eux. Non seulement ils sont du milieu, ils connaissent techniquement les pratiques à faire pour éviter l'inondation et ils savent que dire à la communauté et nous, autorités communales, nous accompagner, comment est-ce que l'inondation peut être évitée. Donc nous leur demandons de doubler d'ardeur, vraiment de mettre l'accent sur l'information et la communication et un peu plus loin d'aller vers la sanction. Parce que sans sanction, il ne peut pas avoir de changement souhaité. Il y a le changement climatique qui est indépendant de la volonté de tout un chacun, de l'avancée du désert. Donc les gens doivent se conformer pour que vraiment le cadre de vie même dans sa globalité puisse être respecté et que nous puissions nous développer dans la paix, la cohésion et le vivre ensemble.
Dans la région de Bandiagara, les autorités locales affirment qu'il y a des risques d'une insécurité alimentaire à Aïssata.
Oui, Draman, elle explique leur crainte non seulement par les inondations qui détruisent les cultures, mais aussi par la situation sécuritaire que connaît cette partie du pays depuis plus d'une décennie.
Alors, pour éviter que la situation soit encore pire, il est important de tenir compte des conseils prodigués par les experts et les autorités compétentes. Par ailleurs, Aïssata, nous restons au centre du pays, mais cette fois-ci, nous prenons la direction de Massina pour le modèle de réussite de ce numéro. Malgré les inondations sur les sites, ajoutées à la précarité, l'espoir n'est jamais éteint dans le cœur des personnes déplacées internes.
Oui, Draman, l'espoir de vivre un jour meilleur, d'accéder facilement aux services sociaux de base, mais surtout l'espoir de revivre leur vie d'avant la crise.
Ils sont des hommes et femmes qui ne croisent pas les bras. Comme on a l'habitude de le dire, ils entreprennent des activités génératrices de revenus avant un quelconque appui sur leur site.
Sekousala Koulibaly en est un exemple. Se déplacer de Massina, localité située au centre du Mali, est notre modèle de réussite de la semaine.
C'est un reportage de notre correspondant à Massina, Sekou Abdelkader Traoré.
Il est 17h sur le site de Nemabougou 2. Le coucher du soleil est presque effectif. De loin, nous apercevons Sekousala Koulibaly déplacé de Soumouni à Massina. Monsieur Koulibaly a entrepris plusieurs activités. Pour lui, le pire, c'est de rester les bras croisés.
À cause des attaques, j'étais obligé de venir chercher refuge ici. Si tu te déplaces par ces circonstances, tu arrives les mains vides. De ce fait, il faut chercher de quoi survivre. Je me suis d'abord intéressé aux travaux champêtres. À l'époque, mes activités en ce sens n'ont pas marché, faute d'eau pour arroser les cultures. Après, j'ai commencé la revente des sacs de charbon à bois. J'en prends avec les grossistes qui amènent les sacs du village.
Une intégration qui n'est pas sans sacrifice, souligne notre interlocuteur. Cependant, Sekousala Koulibaly nourrit un grand espoir.
Je gagne de quoi à nourrir ma famille dans ce commerce. Mais actuellement, à cause de la saison pluvieuse, c'est difficile d'avoir le charbon. Mais je reste convaincu que je pourrais avoir plus à travers cette activité, car c'est toujours mieux de mener des activités, même si tu ne gagnes pas assez. Si j'arrivais à prendre une grande quantité, j'allais me faire beaucoup d'argent. Mais je n'achète que quelques sacs.
Le chef de famille invite toutes les personnes loin de leur ville ou village de s'adapter à leur localité d'accueil, car c'est toujours mieux de prendre des initiatives avant l'arrivée de l'aide extérieure, conclut-il. Sekou Abdelkader Traoré depuis Massina pour Studio Tamani.
On ne se lasse pas de le dire, Aïssa. Ces exemples doivent inspirer plus d'un.
Tout à fait, Draman. Ces personnes déplacées qui ne se disent pas qu'elles ont tout perdu, elles décident de faire de leur défi quotidien des opportunités.
Félicitations alors à M. Koulibaly. Une pensée à toutes les personnes en situation de précarité. Bon courage à elle.
Vous qui nous écoutez, juste un rappel, vous suivez Studio Tamani à travers nos radios partenaires et sur nos différentes plateformes digitales.
Aïssata, par ailleurs, sais-tu ce qui explique ces déluges suivis de ces inondations?
Pas vraiment, Draman, en ce qui concerne les fortes pluies. Les inondations, quant à elles, sont dues à plusieurs facteurs selon les populations, les autorités et même des services techniques. Parmi ces causes, il y a l'insuffisance d'infrastructures d'évacuation d'eau, le civisme de certains qui bouchent les caniveaux existants, entre autres.
Alors, pour avoir des explications scientifiques à ces fortes quantités de pluie, suivons ensemble cette discussion avec professeur Ndji Di Jacques Dambélé, enseignant-chercheur à la Faculté d'Histoire et de Géographie, spécialiste de la géographie physique. Il travaille sur les changements environnementaux de la Terre. Comment est-ce que vous expliquez ces inondations qui sont devenues vraiment récurrentes ces dernières années, surtout cette année?
Quand on dit inondation, c'est que ce sont les cours d'eau qui sortent de leur lit, c'est-à-dire que le cours d'eau sort de là où il s'écoule normalement et se répand de deux côtés. C'est un phénomène qui est naturel, c'est-à-dire que ça se fait de façon naturelle, que l'homme soit là ou que l'homme ne soit pas là. Quand le cours d'eau il est plein, il sort. Et ensuite, maintenant c'est un problème quand les hommes viennent s'installer dans les zones que le cours d'eau peut occuper. Et le grand problème que nous avons et qui explique ces inondations, c'est que nous avons une certaine variabilité pluviométrique que les gens n'ont pas pris en compte. La variabilité pluviométrique est différente d'un changement climatique. On peut avoir une variabilité pluviométrique sans avoir un changement climatique. Ces variations sont liées à des paramètres qui sont là, que je vais vous donner. Et quand vous regardez, dans les années 80, au Mali, on parlait beaucoup plus de lutte contre la désertification. C'est maintenant qu'on parle de lutte contre les inondations. Parce qu'on a connu une petite phase de sécheresse, les années 70 et les années 80. Et ensuite, à partir des années 2000, on est retourné dans l'humidité. Et c'est cette humidité qui continue jusqu'à nos jours. Et c'est ce qui explique les inondations que nous avons aujourd'hui en grande partie. Et si vous regardez, généralement, pendant les années 70 et les années 80, à cause de la sécheresse, les gens ont quitté les plateaux pour venir s'installer au bord des cours d'eau. Souvent même dans les mares qui sont asséchées, souvent dans les cours d'eau même qui sont asséchés. Les gens se sont installés dans un contexte de sécheresse, de diminution de la pluie. L'humidité étant revenue, l'eau revient. Donc ce qui fait que les populations maintenant sont en train de faire le contraire. Ils quittent maintenant les bas-fonds pour remonter sur les plateaux. Et ça c'est vérifié partout au Mali. Allez-y dans les villages. Et dans beaucoup de coins, les gens m'appellent pour me dire que l'eau est en train de sortir de la terre. Parce que la terre est gorgée d'eau maintenant, l'eau est en train de sortir. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. C'est parce que le cycle d'humidité est venu. Donc les inondations que nous avons aujourd'hui, sur le plan naturel, sur le plan pluviométrique, c'est dû surtout à ce retour d'humidité que nous avons connu depuis les années 2000. Maintenant, par rapport à cette année spécifiquement, nous sommes dans un cycle solaire. Et le cycle solaire est de 11 ans. Et le cycle solaire dans lequel nous sommes aujourd'hui a commencé en 2019. Et nous sommes maintenant au milieu de ce cycle. C'est un cycle qui est en courbe, comme une cloche. C'est-à-dire que ça commence et ça augmente et puis ça diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ce cycle solaire-là, le soleil que nous voyons, c'est la principale source de chaleur que nous avons. Donc 99% de la chaleur que nous avons sur la Terre provient du soleil. Tous les autres facteurs dont on parle là ne font que 1%. Et la chaleur de cette année correspond avec le maximum du cycle 25 du soleil. Pour comprendre le rôle de ça sur notre climat, il faut comprendre que cette chaleur-là provoque une évaporation importante au niveau de l'océan Atlantique. Un vent humide qui vient de l'océan Atlantique qu'on appelle la mousson. C'est ce qui amène l'humidité sur notre partie du continent, en Afrique de l'Ouest. Et c'est quand le vent humide là, qui vient de l'océan Atlantique rencontre le vent sec qui vient du désert du Sahara qu'on appelle l'Harmattan, qu'il y a un front qui se forme qu'on appelle le front intertropical. Et c'est ce front intertropical qui permet à ce qu'il pleuve chez nous. Donc plus il y a de la chaleur, plus la mousson est riche en vapeur d'eau. Quand il ne fait pas chaud, la mousson n'a pas assez de vapeur d'eau. C'est clair. Donc, la pluie de cette année est liée au fait qu'il a fait excessivement chaud pendant les mois précédents. Et il y a eu assez d'évaporation pour ravitailler la mousson en assez de vapeur d'eau. Et c'est ce qui fait qu'il pleut aujourd'hui jusque dans le Sahara.
Ce qu'il faut surtout retenir, Draman, c'est que plus il fera chaud, plus de fortes quantités tomberont à la saison pluvieuse.
Merci à l'expert, merci aux auditeurs et merci à toi, Aïssata. Nous allons décontracter un peu. Et c'est à travers notre rubrique Artiste de la semaine.
Les amoureux des mélodies de la guitare, installez-vous bien car nous sommes avec un jeune talent qui sait manier cet instrument. Il l'a hérité, si nous pouvons le dire ainsi, fils du grand Boubacar Traoré Karkar.
Suivons alors.
Alors, qui est Cheikh?
Je suis le fils de Karkar et de Awa Traoré de Lafiabougou.
Depuis quand êtes-vous arrivé dans l'industrie musicale?
4 ou 5 ans environ. Bien que je sois né dans le monde musical, si je peux le dire ainsi, je ne m'étais jamais consacré à la musique. C'est ce dernier temps que j'ai commencé à chanter.
D'accord. Avez-vous appris ce tard à l'école ou à la maison auprès de votre père?
J'ai appris à la maison auprès de papa Dana, un vieux Congolais qui était à Lhasa. Mais c'était pour un laps de temps, car mon père m'a demandé de m'inspirer de notre terroir pour me faire un chemin. Je n'ai pas pu apprendre beaucoup auprès de mon père, car il avait déjà arrêté d'initier à cause de son âge avancé.
Cheikh joue seulement de la guitare, c'est ça?
Je joue la guitare et je chante.
Avez-vous un album?
Non, mais c'est en cours.
Préparation.
Cheikh emboîte les pas de son papa Karkar. On sait que Karkar est une grande figure de la musique malienne. Vous voulez être comme lui?
Mon souhait, c'est d'aller plus loin si Dieu le veut. Prions juste.
D'accord.
Kile binane na nyemai.
bande banye mayele mama jombeni dagantewa mama gani jigiti alala.
Aïcha,
oui,
tu as pensé quoi de la manière de ce jeune à manier la guitare? Moi, quand même, ça m'a rappelé son papa, surtout quand il a commencé à interpréter un des morceaux de son papa, Mariama.
Oui. On écoutait sans pourtant comprendre ce qu'il disait, mais avec, à travers son fils, aujourd'hui, c'est comme revivre le passé, quoi.
Alors, nous disons bon vent aux jeunes qui font revivre le passé, qui font revivre la musique malienne et la culture en général. Bonne chance et bon vent.
C'est ça.
Alors, Aïcha, si nous parlons un peu de musique, après, nous partons vers notre autre rubrique.
Tout à fait, Draman, il s'agit de la rubrique Proverbe de la semaine.
Notre rubrique Proverbe de la semaine est consacrée à cet adage bambara qui dit « Qu'il pleuve ou pas, la pomme cannelle qui est sunsun en bamanakan donne des fruits. »
Que signifie donc cet adage? Écoutons la réponse du traditionnaliste Moussa Balo. Il est au micro de notre correspondant à Ségou, Mohamed Sissi.
Moussa Balabalo, bonjour.
Bonjour.
Il y a un proverbe qui dit « Qu'il pleuve ou pas, la pomme cannelle donne des fruits. » Qu'est-ce que cela signifie?
Merci beaucoup. En fait, les proverbes sont là pour, ils sont adaptés aux actions, à nos comportements. Effectivement, la pomme cannelle qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, il donne des fruits. C'est pour dire que moi, je reste tel, je garde mon comportement, quelles que soient les conditions qui se prêtent à moi, je reste droit dans mes bottes pour actionner, pour donner le meilleur de moi-même. Donc, ce n'est pas les comportements, ce n'est pas les actions qui vont avoir des impacts sur moi. Je reste tel. Quand il s'agit de bonheur, quand il s'agit de bien faire, quand il s'agit de donner de moi, le meilleur de moi-même, eh bien, moi, je ne regarde pas vers les conditions favorables ou défavorables.
Aïssata.
Oui, Draman.
Qu'il pleuve ou pas, la pomme cannelle donne des fruits.
Mais...
pour moi, quand même, c'est une question d'adaptabilité. Un arbre adapté à notre climat. Nous qui ne sommes pas trop habitués à des saisons de fortes pluies comme cette année. Et voilà, il y a... Moi, je résume cet adage dans ce sens. Les sages à Bambara ont réfléchi, ont dit que voilà, la pomme cannelle, qu'il pleut ou pas, c'est...
donne des fruits.
Voilà, donc c'est l'arbre des endroits qui n'ont pas assez de quantité de pluie par saison, comme la partie nord du pays.
Et comme on le dit, Draman, actuellement, on fait face à un changement climatique. Donc, si nous plantons des arbres comme ça, ça peut nous aider à lutter contre les effets néfastes de ce changement, je pense.
Je ne peux pas en dire mieux. Grand merci à tous nos auditeurs et auditrices. Et ce sont ces mots qui mettent fin à ce numéro de votre émission humanitaire Faboudiren. Un numéro qui vous a été présenté par Aïssata Diarra et Draman Meïga. Si vous venez de nous capter, ne vous inquiétez surtout pas. Vous pouvez retrouver cette production et tant d'autres sur notre site web
www.sidiotamani.org. Certaines de nos productions également, Draman, sont disponibles sur notre groupe WhatsApp. Et pour y accéder, enregistrez le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou sur notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp.
Nous ne pouvons pas vous remercier assez de votre fidélité à nos programmes. Ne décrochez surtout pas, car tout à l'heure, la version en bambara.